Une femme libre au temps des années folles. En cette semaine du 8 mars, évoquons la vie aux multiples facettes de celle qui se fit connaître sous le pseudonyme de Titiana et que son biographe Benoît Emmermann qualifiera d'aventurière des années folles. Elisabeth Sauvy est née de 7 enfants, est née le 22 novembre 1897 au domaine familial de Richmond, à Villeneuve de la Rao, à une dizaine de kilomètres au sud de Perpignan. Dans une famille de grands viticulteurs fortunés, elle a un frère d'un an, son cadet, Alfred, qui deviendra démographe et sociologue. C'est à lui que l'on doit, dès 1952, le terme « tiers-monde ». Elle commencera par s'évader de cette atmosphère bourgeoise en explorant la vaste bibliothèque de son père. En 1922, elle adopte le pseudonyme de Titiana, qui reste assez mystérieux. On a supposé que c'était une allusion à ses origines catalanes ou qu'il s'agissait d'un personnage de la mythologie locale. Cette fois, elle va vraiment échapper au milieu qui fut le sien en devenant journaliste et grand reporter. Elle le sera pendant plus de 15 ans, ce qui ne l'empêchera pas d'être dame de compagnie à Paris de la princesse japonaise, fille de l'empereur Meiji et sœur de celui qui lui avait succédé. Pour les quotidiens et magazines auxquels elle collabore, Vu, Voilà, L'Intransigeant ou Paris Soir, Lecture pour tous, Le Matin ou encore Ève, elle parcourt l'Europe et les autres continents. Chine, Europe de l'Est, Amérique, Afrique et Moyen-Orient, en transsibérien, à bord du dirigeable Hindenburg en avion. Elle se rendit au Japon en cargo et fit le tour du monde en goélette en 1927-1928. Elle est aux côtés de Mermoz sur un Breguet 14 de l'aéropostale. D'ailleurs, elle-même est aussi pilote. Elle s'entretient avec Lyautey au Maroc, à Madrid avec Alphonse XIII et Primo de Rivera. Elle rend visite au roi Carole en Roumanie. Elle interview Mustapha Kemal à Ankara en 1924, Venizelos en Crète et Mussolini à Rome en 1935. Hitler à Berlin en 1936 et même Romanetti, un des derniers bandits corses. Elle n'aura nullement à rougir des récits de ses grands reportages ou de ses aventures face à ceux de ses pères, Albert Londres, Joseph Kessel ou Blaise Cendrars. Elle réalise des films documentaires dont « Les Indiens, nos frères » et « Promenade en Chine » en 1932. Commente le Tour de France, enquête sur le trafic d'alcool pendant la Prohibition aux États-Unis, suit une caravane funèbre qui transporte des cadavres à dos de chameaux de Perse à la Mecque, parcourt la jungle indonésienne où elle rencontre une tribu de cannibales, les Toraja, aussi surnommés les chasseurs de têtes, vole une tête justement de Bouddha à Angkor que, prise de remords, elle accrochera à l'obélisque de la place de la Concorde. Elle crée et dirige une revue d'avant-garde, Jazz, avec le réalisateur Carlo Rim comme rédacteur en chef. En 1923, son premier roman, Simplement, paraît chez Flammarion. Le second, La bête cabrée, paru en 1925, dessine en quelque sorte la destinée de son auteur. Elle avait commencé par des contes et composé une opérette. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages de voyage et d'exploration. Ses livres étaient traduits dans le monde entier et l'une de ses œuvres principales, Une femme chez les chasseurs de têtes, est rééditée en 2016, accompagnée d'un inédit, Mes mémoires de reporter, le récit de sa vie d'aventurière paru à l'origine sous forme de feuilleton dans le magazine Vue en décembre 1937 et janvier 1938. Elle fut l'amie de Jean Cocteau, de Man Ray, qui la photographie, de Marie Laurencin, et rencontre quelques jeunes ethnologues voyageurs érudits comme Marcel Griol, Michel Léris et Paul-Émile Victor. Avec cela élégante, coiffée à la garçonne, rebelle mais mondaine, dans la biographie qu'il lui consacre en 1997 et rééditée en 2011, Benoît Emmermann la surnomme la reine du tout Paris. À ces années grandioses succèdent d'autres qui sont plus obscures et assez incompréhensibles. Elle est d'abord très affectée par le décès de son plus jeune frère Pierre, lieutenant de vaisseau, le 3 juillet 1940, durant le bombardement de Merzel-Kébir par la Royal Navy. Elle quitte Paris pour la Côte d'Azur en 1941, commence à traduire de l'allemand « La terre du voleur » de l'estonien Anton Hans Tamsaré, qu'un ami éditeur lui avait confié et elle demande une préface à Jean Giono. Elle écrit des articles antisémites pour le journal La France au travail et pour Les Nouveaux Temps. Elle tiendra une chronique sur les ondes de Radio Paris. À la Libération, arrêtée et soupçonnée d'espionnage, Titiana est incarcérée près d'un an. Mais finalement, elle n'est pas condamnée. Au printemps de 1946, après la mort de son mari qu'elle avait épousé en 1929, elle décide de fuir malgré l'interdiction de quitter Paris, malgré la perte de sa nationalité française et la confiscation de ses biens. Elle choisit de s'installer à San Francisco. Elle y épousera Giovanni Scopazzi, homme de lettres en vue d'origine italienne qui travaillait dans la librairie la plus prestigieuse de la ville sur Union Square. Elle n'a jamais reparlé de sa vie antérieure, mais peut-être cela rappelait-elle en énonçant ce qui résonne comme un programme. Manger du raisin à Smyre, boire du muscat à Syracuse, rêver à Naples, goûter le marasquin à Zara, avoir chaud à Trieste, coucher sur le pont d'infâme bateau en Espagne, enquêter à Melilla, danser à Tanger. Elle meurt le 13 octobre 1966 dans le plus grand anonymat.